Le journal, Frédéric Barrère, bonjour Frédéric.
Bonjour Ali Badou, bonjour à tous. L'événement du jour, 5 ans après les accords de Paris, un sommet en visioconférence pour relancer la bataille contre le réchauffement climatique. Les chefs d'État et de gouvernement afficheront des ambitions à grande échelle, selon Boris Johnson qui ouvrira le sommet. Sandy Dauphin, dans un instant, invité de ce journal, Romain Troublé, directeur général de la fondation Tara Océan. Et journée spéciale sur France Inter, sur le site et sur l'antenne, climat chaud devant. Dans l'actualité également, les négociations qui se poursuivent entre Londres et Bruxelles pour un accord commercial post-Brexit. Les Britanniques n'y croient pas, la marine britannique est déjà prête à protéger les eaux britanniques en cas de no deal. Le débat et les critiques autour de la fermeture des lieux culturels continuent. L'ancien ministre de François Hollande, Patrick Kanner, dénonce une forme d'acharnement à l'égard de la culture. La prescription culture du week-end, le nouvel album de Jane Birkin, réalisé par Étienne Dao. On entendra un extrait en fin de journal. La météo, 3 départements en vigilance orange cru, les Landes, le Gers et les Pyrénées-Atlantiques. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. À 13h20, Secret d'info, Jacques Monin au programme aujourd'hui.
8 journalistes encore assassinés au Mexique cette année, avec en toile de fond l'influence des narcotrafiquants. Nous allons donc tout vous dire du projet Cartel, une grande enquête internationale à laquelle nous avons participé avec le consortium Forbidden Stories.
Jacques Monin, Secret d'info après ce journal.
France Inter.
C'était il y a 5 ans, le coup de marteau, les applaudissements et la voix gagnée par l'émotion. Laurent Fabius, que l'on vient d'entendre à l'instant avec Ali Badou, président de la COP21, annonçait un accord historique sur le climat. 195 pays réunis à Paris adoptaient ce texte avec un engagement, maintenir le réchauffement climatique sous 2 degrés et si possible sous 1,5 degré. 5 ans après, les émissions de gaz à effet de serre ont continué à croître et le monde, loin de ses objectifs, va vers un réchauffement de 3 degrés. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Le monde va devoir redoubler d'efforts et ce sommet, Ambition Climat, aujourd'hui, a débuté ce matin par une réunion au Quai d'Orsay à Paris.
Oui, 5 ans après l'accord de Paris, les choses ne vont pas mieux, mais elles vont moins mal que s'il n'y avait pas eu d'accord. C'est le résumé de la situation ce matin par l'un de ses artisans, Laurent Fabius. Cet anniversaire n'a rien de festif. Pour Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, il faut regarder la réalité en face.
2020 aura été sans doute l'année la plus chaude jamais enregistrée. Nous le saurons bientôt avec certitude. L'année où le mercure aura grimpé jusqu'à 38 degrés en Sibérie. L'année où un brutal record de 30 tempêtes majeures aura frappé l'Atlantique. Regardons la réalité en face. Notre planète n'est plus en sursis. Elle a désormais basculé dans l'état d'urgence.
Et cet état d'urgence a vu grandir une génération qui manifeste, fait la grève du climat, secoue les politiques. Nathan Métayer a 21 ans. Depuis cet été, ce militant français fait partie des jeunes conseillers climat auprès du secrétaire général des Nations Unies.
Les sommets, les réunions s'enchaînent et rien ne se passe, rien change. Il faut remettre au cœur les gens pour faire la transition. C'est en associant les citoyens qu'on peut faire cette transition. Et c'est pour cela que la Convention citoyenne pour le climat est tant cruciale. Le monde nous regarde, il est temps que les engagements qui ont été pris soient tenus. Et ça, ce serait un beau cadeau pour l'anniversaire de l'accord de Paris.
Alors cet après-midi, les chefs d'État et de gouvernement s'en disent vont se réunir par visioconférence, un sommet ouvert par le Premier ministre britannique Boris Johnson. Que peut-on attendre de cette réunion ?
Pour une fois, seuls les États qui peuvent annoncer des plans climat plus ambitieux ont le droit de prendre la parole. C'est une sorte de clause anti-cynisme. Environ 80 interventions sont prévues. L'Europe présentera son nouvel objectif de moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030. La Chine, le plus gros pollueur, devrait rappeler qu'elle vise désormais la neutralité carbone à l'horizon 2060. En revanche, les mauvais élèves comme l'Australie et le Brésil n'ont pas obtenu de temps de parole cet après-midi.
Sandy Dauphin, merci. Et à l'occasion de cet anniversaire des accords de Paris, la goélette scientifique Tara va quitter aujourd'hui son port de Lorient pour une nouvelle mission de 2 ans à la recherche de micro-organismes, les microbiotes. Invité de ce journal, Romain Troublé, directeur général de la fondation Tara Océan. Bonjour Romain Troublé.
Bonjour.
Alors pour ce qui concerne les océans, 5 ans après les accords de Paris, qu'est-ce qui a changé selon vous et peut-être dans le bon sens ?
Ce qui a changé, c'est qu'on a fait des progrès sur la connaissance de cet écosystème de l'océan. On a eu un rapport du GIEC sur les océans et cryosphères en 2019, qui a bien sûr tiré la sonnette d'alarme sur l'enjeu et l'impact du changement climatique sur l'océan et ses écosystèmes.
Il y a une prise de conscience, c'est ça, du rôle des océans ?
Oui, davantage de prise de conscience du rôle des océans, c'est ce qui est sorti de la COP 21 il y a 5 ans maintenant. L'océan est un peu rentré dans le logiciel des négociateurs sur l'enjeu climatique. Et il faut encore et toujours davantage rappeler que cet océan a vraiment un rôle majeur à jouer sur ce climat planétaire. Et sa préservation est une clé de l'avenir.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'océan, 5 ans après les accords de Paris, au premier jour de la mission Microbiome dont on va parler, est-ce qu'aujourd'hui, l'océan va mieux depuis ces accords de Paris?
Pas encore, on peut pas le dire, on l'a pas mesuré. Et puis, beaucoup d'États n'ont pas encore mis en place leurs engagements volontaires en incluant l'océan dans leurs engagements. Très souvent, l'océan est un peu le dernier parent quand même de ces sujets-là. Et donc, je peux pas vous dire ça aujourd'hui, non. Malheureusement, tout se réchauffe partout. C'est ce qu'on constate partout dans le monde.
Alors, Romain Troublé, en 5 ans, quels sont les impacts, concrètement, les impacts du réchauffement climatique sur nos océans?
Écoutez, on a observé des blanchissements des récifs coralliens dans tout le Pacifique, très fréquents. On a eu 3 phénomènes El Niño qui ont impacté le Pacifique entre 2015 et 2019. Et on voit bien sûr également que l'Arctique aujourd'hui, en Arctique, la glace, la banquise, a mis énormément de temps cette année à regeler. A eu plus d'un mois de retard par rapport aux années précédentes. Donc, les signaux sont là, c'est plus la question de savoir si ça se réchauffe, c'est la question de savoir comment on fait pour limiter les dégâts demain.
Alors, comment on fait pour limiter les dégâts demain? Eh bien, on envoie la goélette Tara, c'est un laboratoire flottant, c'est ça, qui part aujourd'hui pour une mission Microbiome. Alors là, il faut que vous nous expliquiez un peu le but pour comprendre ce peuple invisible de l'océan.
Bien sûr, ouais. On vit nous-mêmes, les hommes, les humains et les mammifères, grâce à un microbiome dans notre intestin qui nous fait digérer. On peut pas vivre sans eux, c'est vital. Et finalement, à l'échelle planétaire, ces microbes marins sont responsables aussi des grands équilibres planétaires, du climat. Ces microbes qui sont moins d'un millimètre, qui font des virus, bien sûr, des bactéries, des micro-algues marines, sont capables de produire l'oxygène. La moitié d'oxygène produit chaque jour est produit par ces organismes. Stocker du carbone. Transformer l'énergie solaire en protéines pour la chaîne alimentaire. Donc, ils sont vraiment vitaux, en fait, pour notre bien-être sur cette planète.
C'est-à-dire, vous nous dites, Romain Troublé, vous nous dites que les microbiomes, que l'océan produit la moitié de l'oxygène sur Terre chaque jour?
Exactement, chaque jour, oui. Ces micro-algues marines font la photosynthèse comme les plantes qu'on connaît tous. Eh ben, elles le font à la surface de la mer et elles produisent comme ça beaucoup d'oxygène.
Le microbiome, concrètement, on dit que c'est le plus petit peuple de l'océan. C'est quoi? C'est des petites bactéries? C'est invisible à l'œil nu?
Oui, on parle de tout ce qui fait moins d'un millimètre. Alors, il y a des virus, il y a des bactéries en pagaille, il y a des micro-algues marines,
il y a des archées bactéries.
Il y a des virus, bien sûr. Ils sont indispensables finalement à l'évolution de ces virus, indispensables à la machine climatique qu'est l'océan.
D'accord. Alors, le court terme, justement, vous parliez de virus, la mission Tara, c'est aussi pour nous dire que le court terme, et je pense au coronavirus, ne doit pas nous faire oublier le long terme et les enjeux du réchauffement climatique. L'effort doit redoubler. Sur combien de temps on pourrait, si on arrivait à maintenir les engagements qu'on en a pris, combien de temps faudrait-il pour avoir des effets sur l'océan?
Très vite, l'océan a cette particularité que dès qu'on lâche une pression, dès qu'on arrête de le déranger, la vie reprend ses droits très très vite et on dit qu'il est très résilient. Eh bien, en une dizaine d'années, un récif corallien par exemple qui blanchit, en 4-5 ans, il reprend comme si de rien n'était sa vie d'avant. Donc, il y a vraiment un espoir dans cet océan, c'est-à-dire que dès qu'on lâche les pressions, dès qu'on arrête de réchauffer la planète, très vite, en une décennie, deux décennies peut-être, on verra les effets immédiatement de ces actions.
Alors vous me disiez que l'océan produit la moitié de l'oxygène, mais l'océan absorbe aussi et stocke le CO2, le gaz carbonique.
Oui, dans l'océan il y a deux pompes biologiques, il y a deux pompes à carbone, il y a la pompe à carbone du courant qui envoie des eaux de surface pleines de carbone au fond de l'océan, et puis il y a aussi la pompe à carbone biologique, et ce microbiome qu'on va étudier avec Tara est le responsable de cette pompe à carbone qui transforme l'énergie solaire en matière organique, en faisant ça, fait aussi de l'oxygène et capte du carbone qui ensuite va couler au fond de la mer pour des millions d'années. Et donc c'est vraiment un phénomène important.
Merci, merci beaucoup Romain Troublé. Bonne mission Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Océan. Et puis France Inter consacre aujourd'hui une journée spéciale climat chaud devant à l'occasion des 5 ans d'accord de Paris. La journée spéciale se poursuit cet après-midi à partir de 15h et jusqu'à 20h. Mathieu Vidard notamment et Camille Cronier dans un 18-20 spécial recevront entre autres invités Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Climat chaud devant à retrouver aussi sur notre site franceinter.fr.
France Inter, le journal de 13h, Frédéric Barrère.
Le débat, l'incompréhension, les critiques continuent autour de la fermeture des lieux culturels. L'ancien ministre Patrick Kanner, président aujourd'hui du groupe socialiste et républicain au Sénat, dénonce une forme d'acharnement à l'égard de la culture. Cette semaine, le gouvernement a décidé de prolonger au moins jusqu'au 7 janvier la fermeture des salles de spectacle et des lieux de culture. Sur ce dossier, le gouvernement se trompe, selon Patrick Kanner.
Il y a une forme d'acharnement à l'égard du monde de la culture. Pourquoi, très concrètement, permettre, et heureusement, les transports parfois saturés, je pense au métro parisien, par exemple, ou le RER, et se retrouver à empêcher les cinémas de fonctionner, les théâtres de fonctionner, les musées de fonctionner. Je ne comprends pas. Il y a là vraiment une incohérence, une injustice, une forme d'acharnement. Le gouvernement se trompe. Chacun sait que tous ces propriétaires, ces gestionnaires de salles de spectacle, de salles de culture, ont fait d'énormes efforts pour préserver les conditions sanitaires. Donc faisons leur confiance.
Patrick Kanner ce matin sur France Info. Et puis cette décision du Conseil d'État qui annule le limogeage au printemps dernier de l'ancien directeur général de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Christophe Lannelongue avait été démis de ses fonctions pour avoir tenu des propos controversés sur la suppression des postes au CHU de Nancy. L'affaire avait fait beaucoup de bruit et alors que la crise du coronavirus était particulièrement virulente dans la région, Christophe Lannelongue avait estimé qu'il n'y avait aucune raison de remettre en cause les suppressions de postes prévues.
Christophe Lannelongue a été démis de ses fonctions le 8 avril dernier en Conseil des ministres en plein confinement alors que la pandémie se propageait à grands pas. Ce haut fonctionnaire d'État avait créé la polémique en déclarant lors d'une conférence de presse qu'il n'y avait aucune raison de remettre en cause le projet de restructuration du CHU de Nancy. Ce projet prévoyait un regroupement des activités de l'hôpital sur un seul site, celui de Brabois, mais il était assorti de 598 suppressions de postes et la fermeture d'environ 200 lit. Or, peu de temps avant, face à la situation des hôpitaux débordés par la crise du coronavirus, le gouvernement s'était engagé à ne plus toucher aux hôpitaux. Autant dire que les déclarations du directeur de l'ARS Grand Est n'ont pas plu et ça n'a pas traîné. Christophe Lannelongue a reçu un coup de fil du directeur de cabinet du ministre de la Santé une heure seulement avant le Conseil des ministres qui devait entériner son éviction. Or, ce n'est pas ce que prévoit le Code de la santé publique, d'où la décision du Conseil d'État.
Mohand Chibani, France Bleu, Sud-Lorraine, à l'étranger, aux États-Unis. Les premières vaccinations contre le coronavirus débuteront dans moins de 24 heures. Les États-Unis ont accordé une autorisation en urgence au vaccin Pfizer-BioNTech. Le président Donald Trump a annoncé que l'armée a déjà commencé à acheminer les vaccins dans tous les États. Venons-en maintenant au Brexit et les négociations du week-end entre Londres et Bruxelles pour trouver un accord commercial post-Brexit. Elles se poursuivent, mais les chances d'y parvenir s'amenuisent. À tel point que Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a jugé très, très probable l'échec des négociations. Les bateaux de la Royal Navy sont en alerte et les autorités britanniques annoncent qu'aujourd'hui, 4 navires de l'armée protègent les eaux territoriales britanniques des pêcheurs étrangers en cas de no deal et ça démarrera le 1er janvier, Richard Place.
C'est un sérieux coup de pression dans ces négociations interminables et tendues. Sous la forme de navires de guerre de 80 mètres, armés et prêts à appareiller dès l'entrée en vigueur du Brexit à la fin de l'année, si aucun accord commercial n'est trouvé d'ici là. La pêche est l'un des 3 sujets qui fâchent et qui n'avancent pas. L'Europe voudrait que les accords actuels soient prolongés d'un an, le Royaume-Uni refuse et le matérialise aujourd'hui de manière ferme. Les 4 vaisseaux seront prêts à patrouiller dans les eaux territoriales britanniques pour empêcher les pêcheurs étrangers d'y pénétrer. Les marins de Sa Majesté auront même le droit de monter sur les bateaux hors la loi, voire d'arrêter ceux qui s'y trouvent. Si la pêche ne pèse pas bien lourd économiquement dans ces négociations, c'est un symbole important des deux côtés. Dans cet ancien empire colonial dont la flotte était le fleuron, régner sur les mers est un enjeu historique, synonyme de fierté nationale. Les députés conservateurs n'ont jamais relâché la pression sur Boris Johnson à ce sujet et visiblement, ils sont entendus. Londres, Richard Place, France Inter.
Et je vous signale sur notre site franceinter.fr cette page Brexit, 4 ans de négociations résumées en 5 minutes de lecture. En Nouvelle-Calédonie, une manifestation est réunie aujourd'hui à Nouméa entre 23 000 et 30 000 personnes. Les manifestants réclament la fin des blocages et la liberté de circuler. Une marche pacifique qui intervient après une semaine de violence marquée par des barrages routiers à l'appel des mouvements indépendantistes. La vente d'une usine de traitement de nickel a provoqué la colère notamment du FLN Canès et des chefs Kanak. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Frédéric.
Et la manif a été très suivie à Nouméa.
Oui, une contre-manifestation même aux allures de meeting loyaliste. Drapeau bleu, blanc, rouge, marseillaise à l'image des nombreux rassemblements organisés avant le référendum du 4 octobre dernier. Au cœur du conflit, le rachat de l'usine de nickel du Brésilien Vale. Le nickel, c'est le poumon économique de l'île. Problème, le site n'a jamais été rentable et Vale a donc décidé de vendre. Très vite, la société de négoce de matières premières Trafigura s'est positionné, faisant craindre aux indépendantistes et aux syndicats une opération de spéculation. S'en est suivi des barrages routiers et une intrusion dans l'usine d'une violence inédite, selon Philippe Dunoyer. Il est député UDI de la première circonscription de Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie est en train de vivre des heures qui nous rappellent les heures les plus sombres de notre histoire, celles qui sont liées aux événements, comme on dit, des années 84-88 avec des blocages, des tirs entre civils. Cette semaine a été terrifiante.
Hier, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a lancé un appel au dialogue qui semble pour le moment avoir été entendu. Raphaël Mapou est le porte-parole du collectif indépendantiste Usine du Sud égale Usine Pays. Il est au micro de nos confrères de la première.
La situation s'est envenimée. On n'avait pas prévu. L'idée de rencontre est nécessaire parce que là, il y a deux blocs là. Nous, de notre côté, les populations sont assez remontées par rapport à ce projet qui a été construit à la dernière minute.
L'enjeu derrière les positionnements politiques, c'est évidemment la sauvegarde des 3000 emplois directs et indirects sur un site qui a perdu près de 2 milliards d'euros depuis 6 ans.
Thibault Lefebvre, merci. 7 membres de l'ultra-gauche, 6 hommes et une femme soupçonnés d'avoir voulu préparer une action violente ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. 5 d'entre eux ont été placés cette nuit en détention provisoire. Les 2 autres sont sous contrôle judiciaire. Quel Noël et quel jackpot pour le gagnant de l'Euro Million, 200 millions d'euros remportés en France. C'est un record, le plus gros gain jamais gagné en France, précise la Française des Jeux. Le gagnant avait une chance sur 140 millions de décrocher le gros lot. Sa vie a basculé, Audrey Tison.
Vous pouvez vous payer 2 Airbus A320, des gros avions qu'il faudra accessoirement prévoir de stationner et de faire voler. 200 millions, c'est le prix d'une douzaine de modèles de la voiture de sport la plus chère au monde, une Bugatti. Vous êtes plutôt branché football, eh bien achetez-vous n'importe quel joueur au monde, Griezmann, Salah, mais pas Kylian Mbappé, hein, qui est devenu trop cher. Moi, je vous propose plutôt de racheter l'ensemble de l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. Vous gagnez plusieurs Ligues des Champions, plusieurs années d'affilée. Soyons plus terre à terre, 200 millions d'euros, c'est l'équivalent de plus de 13 000 années de SMIC. Ça permet de dépenser plus de 400 000 euros chaque mois pendant 40 ans. Alors une fois la villa de luxe, la voiture, les beaux voyages payés, eh bien vous avez largement de quoi mettre de côté pour les 10 générations à venir.
Audrey Tison, merci. Eux ont droit, bien évidemment, aux remontées mécaniques. La saison de la Coupe du Monde de ski débute ce week-end avec les spécialistes de la vitesse. La descente demain et aujourd'hui le Super G. En direct de Courchevel, on retrouve Guillaume Batin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Et la compétition se déroule dans une ambiance particulière.
Alors, il y a de la neige et du brouillard, ça on a l'habitude en montagne, mais ce qui est un peu plus troublant ici, c'est malgré l'ambiance mise depuis ce matin par le speaker, il n'y a évidemment pas de spectateurs, c'est à huis clos, comme beaucoup de compétitions en ce moment, il y a les skieurs, leur staff, les journalistes, les représentants de la station, la Fédération Internationale de Ski, mais la station est vide, on est ici devant cette piste Émile Allez, magnifique, où les skieuses descendent depuis ce matin avec l'éclairage, on est dans le brouillard, mais quand on descend un peu plus bas dans la station, les volets des beaux chalets en bois sont fermés pour la plupart d'entre eux. Les boutiques, les vitrines, les beaux magasins de ski sont allumés mais fermés en attendant évidemment de meilleurs jours sans doute au début du mois de janvier.
Merci Guillaume Batin en direct de Courchevel. La prescription culture pour terminer cette édition avec un album à offrir sans modération pour Noël, nous dit notre service culture de France Inter. C'est le grand retour de Jane Birkin avec un nouveau disque réalisé par Étienne Dao et Jean-Louis Pierrot, un album adapté de la pièce du même nom, Oh, pardon, tu dormais. Il s'agit, Mathieu Culuron, de son disque sans doute le plus personnel.
Jane Birkin, aidée par Étienne Dao, a envisagé ce disque comme un opéra dont elle serait le seul personnage. C'est elle qui a écrit tous les textes, dont ce titre « Cigarette », première chanson écrite qui évoque la disparition de sa fille.
Ma fille s'est foutue en l'air.
Je l'avais écrit dans les dernières pages de mon agenda quand j'avais été envahie par la tristesse de le manque d'elle. Et j'ai montré ça à Étienne. Il avait une musique qui était un peu à la Kurt Vile. Et finalement, c'était choquant et bien. Finalement, elle est partout dans ce disque. Ça me fait plaisir qu'elle soit là.
Ghost. Pour la première fois, Jane Birkin a écrit dans sa langue maternelle « Souvenirs d'enfance » de comptines anglaises.
En plus, il y a une attirance par les Anglais vers les cimetières. Il y a quelque chose de romanesque, de gothique. En fait, une comptine de l'époque de la peste. On chantait ça et Étienne a mis ça en contre-champ comme ça.
« Oh pardon, tu dormais » est l'album le plus personnel de Jane Birkin, sombre et sensuel, une vision touchante, un journal intime parfaitement réussi.
Jane Birkin pour nous amener jusqu'à la météo.
La météo avec les œufs de Loué. Par tous les temps, les œufs de Loué sont pondus par des poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski.
Vigilance orange dans le sud-ouest pour la crue de l'Adour, de la Garonne et de leurs affluents, avec aujourd'hui un soleil vaillant pour les bords de la Méditerranée. Une amélioration sensible par la façade nord-ouest de la Bretagne à la Haute-Normandie en descendant vers le Poitou-Charentes. Mais ailleurs, le temps est à la pluie, avec des précipitations marquées près des Pyrénées, de l'Auvergne et du Jura aux Alpes, avec de la neige sur tous ces massifs à moyenne altitude, dans des températures légèrement au-dessus des moyennes, avec 6 à 9 cet après-midi. Midi du nord-est à Rhône-Alpes, 8 à 10 au nord de la Loire et 11 à 14 sur les régions méridionales, a signalé un vent d'ouest assez fort le long des Pyrénées. Demain, retour d'un temps sec et ensoleillé pour la moitié sud du pays, mais dans la partie nord, les pluies arrivées cette nuit par la Bretagne, les Pays de la Loire et les Charentes vont gagner vers la Belgique en journée, poussées par un vent de sud assez fort vers 70 km à l'heure au nord de la Loire.
Jean-Michel Golinski de Météo France.